Vote pour la science avec Isabelle Burgoyne.
Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Il y aurait plusieurs centaines de sites miniers abandonnés au Québec. Certains datent de l'époque où le gouvernement n'obligeait pas les compagnies minières à restaurer leurs sites, donc avant 1995. Il faut savoir que les anciennes mines délaissées recèlent parmi d'autres choses des métaux lourds toxiques sous forme de traces. Cela forme une source de contamination pour les lacs et les rivières proches et aussi les sources souterraines. Le gouvernement du Québec a réformé il y a un an et demi sa loi sur les mines au Québec. Le projet de loi 63 apporte de bonnes choses, par exemple de devoir soumettre les projets miniers à venir à l'évaluation du Bureau d'audience publique pour l'environnement, le BAP. Cependant, il introduit la possibilité de réparer via le paiement d'une somme d'argent le préjudice fait à l'environnement et limite le suivi du plan de réaménagement et de restauration à 15 ans. Est-ce que ça sera suffisant? Donc, comment décontaminer les mines abandonnées? Nous en parlons tout de suite. Ne bougez pas. À Je vote pour la science, nous retournons sur les sites miniers pour parler de restauration et de dépollution. Pour en parler, je suis en compagnie de Cassandre Lazare, professeure au département des sciences biologiques de l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM, et membre régulière du groupe de recherche interuniversitaire de limnologie, le GRIL. Bonjour.
Bonjour.
Je suis aussi en compagnie de Bruno Bussière, professeur à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et directeur scientifique du programme de recherche de l'Institut de recherche en mines et environnement, l'IRM, à l'UQAT Polytechnique. Bonjour.
Bonjour.
L'abandon du projet de l'usine de batterie Northvolt à Saint-Basile-le-Grand et à McMasterville à l'automne dernier nous rappelait l'importance des répercussions environnementales sur les projets miniers. Il resterait plusieurs centaines de vieux sites miniers délaissés par des compagnies au Québec. Cela représente plusieurs défis de réaménagement et de restauration des sites et aussi de décontamination des terrains abandonnés. Professeur Bussière, je vais commencer avec vous. Quel est l'état actuel des mines abandonnées au Québec?
Les mines abandonnées au Québec, il y a un inventaire qui a été fait. Là, et c'est sûr, il y a toutes sortes de définitions de ce qu'est un site abandonné, parce que ça peut être seulement que des sites sont, il y a quelques des déchets de l'exploration, par exemple, durant l'exploration du forage et tout, peut être considéré comme un site minier. Mais moi, j'ai plutôt tendance à parler des sites qui ont été en exploitation, là, où il y a eu des impacts, il y a des résidus qui ont été déposés et tout. Donc, quand on regarde ces sites-là, on est plus autour de 2000 hectares à l'échelle du Québec qui sont des sites abandonnés. Ça varie là, parce que selon qu'un site est que il y a certains sites qui sont considérés actifs qui tout à coup deviennent abandonnés. Donc ça peut varier, mais on parle de cet ordre de grandeur là à l'échelle du Québec et le gouvernement du Québec a prévu restaurer ces sites-là, il a mis de l'argent au passif environnemental et présentement le coût estimé de ces sites-là, c'est d'environ 1,2 milliard c'est un estimé qui a été fait par le gouvernement du Québec et puis cet argent-là sert à restaurer des sites abandonnés. Il y en a qui sont déjà à restaurer, d'autres sont en cours de restauration et d'autres qui restent à restaurer, mais c'est en théorie à peu près l'ampleur du problème. Puis le gouvernement, bien évidemment, dans les dernières années, a imposé des plans de restauration aux compagnies minières existantes. Donc, ce qui fait que ce volume ou cette superficie de cet abandonné-là devrait pas augmenter de façon trop importante dans les prochaines années, puisque les compagnies minières qui opèrent, qui ont des sites miniers, mais normalement, ont mis de l'argent en garantie, donc ils ont des garanties financières que si jamais ils faisaient faillite, ce qui est pas souhaité évidemment, mais si jamais ils faisaient faillite, cet argent-là est disponible pour restaurer leurs sites qui ont été utilisés lors des opérations. Donc ça va permettre probablement de, là on vit sur l'historique, si vous voulez, c'est C'est des années 30, 40, 50, tous ces sites-là où on, à l'époque, on ignorait le problème, évidemment, étaient laissés à l'abandon. Le gouvernement du Québec les a repris. Là, il est en train de les restaurer. Mais normalement, dans le futur, on devrait pas voir une augmentation significative, à moins que les compagnies font faillite. Et à ce moment-là, ben, au moins, on aura l'argent en garantie pour les restaurer. Fait que c'est un peu la situation, rapidement, là, des sites abandonnés au Québec.
Merci beaucoup. Professeur Lazare, les mines créent des habitats uniques pour des organismes et des nouvelles adaptations de la faune et de la flore. Décrivez-nous un petit peu ce qui se produit là quand on a un site qui est abandonné par la compagnie. Qu'est-ce qu'il y a, au niveau plutôt de la flore, de la faune, des bactéries?
C'est vrai qu'on s'imagine un petit peu ce qui s'est produit et peut-être pour mettre les choses en contexte, moi j'arrive un petit peu peut-être après mon collègue, j'ai travaillé sur deux anciens sites miniers. Et puis, en gros, on s'est rendu compte, quand les compagnies arrêtent leurs activités, donc moi, c'est des mines qui ont 100 ans à peu près, qui ont cessé leurs activités depuis déjà un petit moment, l'eau souterraine, petit à petit, va envahir tous les tunnels souterrains jusqu'à la surface. Donc, dans cette eau souterraine, il y avait des micro-organismes qui doivent faire face à des nouvelles conditions parce que petit à petit aussi, on va avoir l'érosion, par exemple, des roches qui vont amener la concentration de certains minéraux.
Mmh. On parle de mines de mica, je pense, c'est des mines qui sont situées dans l'Outaouais, c'est ça?
Oui, c'est ça. Moi, celles sur lesquelles j'ai travaillé, donc c'est une ancienne mine de mica, puis une ancienne mine de fer.
Oui.
Et donc ce sont des habitats souterrains qui sont artificiels, qui ont été créés par l'homme, mais sont des conditions assez uniques au monde pour la microbiologiste que je suis. Oui. Il fait toujours froid dans ces habitats souterrains, quelle que soit la saison. Il n'y a pas de lumière, donc il y a beaucoup de métaux. Et il n'y a pas d'oxygène aussi. Ça commence à disparaître très rapidement. Donc pour être franche, quand j'ai commencé moi à travailler dessus en 2019, je m'attendais à ce qu'il n'y ait pas grand-chose qui ait réussi en fait à s'adapter,
à survivre.
Hein,
oui.
Et contre toute attente, avec mes étudiants, on s'est rendu compte que en fait ces habitats foisonnent de vie, de diversité, de plein d'organismes différents qui ont réussi à s'installer, puis à recoloniser ces milieux, à leur redonner vie d'une certaine façon, et qui font plein de choses intéressantes qu'on continue encore à découvrir en fait et à étudier.
Oui, oui, j'imagine. On va en parler plus en détail. Professeur Bussière, quels sont les dangers pour l'environnement et les bouleversements occasionnés par cette production minière?
C'est sûr que la contamination des eaux, c'est la principale préoccupation. Mmh. Ce qui est particulier au secteur minier, c'est que souvent, dans des milieux industriels plus autres, la pollution vient du procédé souvent. Donc, on ajoute des produits chimiques, on génère une contamination qui vient du procédé. Dans le cas des sites miniers, la préoccupation principale, ça vient d'une réaction naturelle qui se produit quand on prend la roche qui est sous terre, dans un environnement là, très très particulier, donc pas d'oxygène, avec probablement une nappe phréatique qui est au-dessus. Donc, c'est un environnement particulier. On prend cette roche-là, on la prend et on la sort et on l'expose, on la broie ou on l'explose avec des explosifs. On peut même aller jusqu'à la broyer. Puis après, elle est exposée aux conditions atmosphériques, donc pluie, oxygène atmosphérique, plus le solide. Mais souvent, si la roche contient certains minéraux, ce qu'on appelle les sulfures, ben ces minéraux-là sont dans un nouvel environnement et ils vont réagir, ils vont s'oxyder. Et en s'oxydant, ils vont générer de l'acidité. Et cette acidité-là fait évidemment diminuer le pH. Et quand le pH diminue, les métaux sont encore plus solubles, il y a plus d'oxydation. Donc, on se retrouve avec un problème de métaux et un problème d'acidité. Et ça, c'est pas dans le procédé, mais c'est dans l'interaction entre les rejets qu'on exploite. Et évidemment, pour extraire un gisement ou des valeurs économiques, on sort beaucoup de roches. Évidemment, ça dépend du type de mine, ciel ouvert, souterraine. Mais normalement, on génère énormément de rejets pour la quantité de métal qu'on va chercher. Ouais,
j'ai lu que c'était 3 pour 1.
Ça peut être si vous avez une mine d'or, vous générez 10 grammes d'or à la tonne. Tonne, c'est 1000 kilos. Fait que si vous faites le ratio, c'est énorme là, comme ratio. Donc ça dépend du type d'éléments qu'on extrait, mais il reste qu'on génère beaucoup de rejets. Et ces rejets-là, ils contiennent, c'est pas tous les rejets qui contiennent ces fameux minéraux sulfureux, mais souvent, ils sont présents. Et s'il y en a beaucoup de ces minéraux-là, ben là, on se retrouve avec un problème d'acidification des eaux de surface, des eaux souterraines. Et c'est ça qui est le principal problème environnemental. Évidemment, ça peut être aussi des montagnes de résidus, là, pour ceux qui voient les mines modernes, là, des fois, c'est assez impressionnant. Et sinon, il y a un autre problème qu'on a, ou un problème environnemental qu'on veut contrôler, c'est la stabilité physique de ces ouvrages-là. Donc, il y a eu plusieurs cas dans les dernières années de rupture de digues, de rejets miniers qui ont causé beaucoup de tort à l'environnement. Évidemment, les compagnies minières essaient d'éviter ces problèmes de stabilité physique. Donc, je dirais deux problèmes majeurs, stabilité chimique, c'est les fameuses interactions entre les sulfures, l'eau et l'air qui mènent à l'acidification, et le problème de stabilité physique qui, lui, c'est que ces empilements-là de résidus, on veut qu'ils restent stables à court, moyen et long terme.
Oui, sur place. Hein. Professeur Lazare, on retrouve toutes sortes de contaminants. Quels sont-ils, quels sont leurs effets sur l'environnement?
Je suis peut-être pas la meilleure personne pour répondre à la question, parce que je suis microbiologiste, donc oui. les effets sur les organismes, si vous voulez.
Oui.
En fait, mon problème principal pour répondre à cette question, c'est que j'ai pas vraiment de point de comparaison. Donc, je peux voir les organismes qui sont dans l'habitat maintenant, mais on n'a pas. En fait, il nous aurait fallu, par exemple, des eaux qui étaient là au départ, ou l'eau souterraine qui était là
avant.
Donc, on a quand même essayé de répondre un peu à cette question en échantillonnant de l'eau souterraine qui était aux alentours de l'ancienne mine de Mica. Alors, bien entendu, on voit des grosses différences. Mais en microbiologie, les choses ne sont jamais simples. C'est pas parce que, par exemple, la diversité peut être différente, ça veut pas dire que leurs activités vont être différentes. Donc ça prend beaucoup de temps pour répondre, en fait, à cette question. C'est encore en cours, mais oui, il y a un effet sur la population locale, c'est certain.
Oui. Ben justement, professeur Bussière, parlez-nous de cette problématique des contaminants. Qu'est-ce qu'on retrouve et quels sont peut-être les risques aussi pour les écosystèmes et les populations?
Je pense les principaux contaminants, ça va dépendre de la roche mère. Donc, si vous êtes, par exemple, dans une mine, vous avez de l'arsenic parce que vous avez de l'arsenopyrite ou d'autres minéraux qui contiennent de l'arsenic, l'arsenic peut être votre contaminant le plus problématique. C'est ça. Et dans d'autres cas, ben, on n'aura pratiquement pas d'arsenic dans la roche, mais on va avoir du zinc, du nickel, du cuivre, et ces métaux-là qui sont en assez grande quantité pour être exploité économiquement, ben ils vont se retrouver dans les rejets, puis ils risquent de se retrouver éventuellement dans l'eau. Donc, ça, c'est souvent les principaux problèmes, ça va être relié, ceux à plus long terme, ça va être relié aux contaminants métalliques qui viennent du drainage contaminé là, par l'interaction entre la roche et son environnement. Et il va y avoir des contaminants aussi qui vont apparaître durant le processus minier. Donc là, par exemple, si on est une mine d'or, on va utiliser du cyanure. Le cyanure, évidemment, c'est un produit toxique. On va vouloir le dégrader avant de retourner l'eau à l'environnement. Donc, on va s'assurer que ce contaminant-là n'est plus présent. Il y a tous les produits avec ammoniac là, qui sont générés, qui peuvent être générés durant le traitement et les opérations. Ben, on va s'assurer aussi que ça cause pas des problèmes de toxicité. Il y a des tests qui sont faits. Donc, la mine, elle est comme, c'est comme un circuit fermé en opération. Puis même après la restauration, on va tenter d'avoir un endroit ou maximum deux endroits où on va avoir l'effluent. Donc, cet effluent-là, on va le contrôler. Et on va s'assurer qu'il respecte les critères. Et là, on parle de critères au niveau des qualités physico-chimiques des eaux, métaux, pH, et tout ça. Et si jamais on n'atteint pas les valeurs exigées par le gouvernement, ben à ce moment-là, on doit traiter cette eau-là. Mais les contaminants, c'est vraiment associé au type de mine qu'on opère, mine d'or, mine de métaux, la roche sur laquelle on travaille. Fait qu'il est difficile de généraliser et dire c'est un problème de cet élément-là, cet élément-là, cet élément-là. C'est vraiment, pour chaque mine, ça va être un problème différent, d'une ampleur différente. Et le plus on est en amont, là, plus on est tôt dans le processus et qu'on réussit à prévoir un peu quels vont être les contaminants potentiellement problématiques, ben plus on va le prévoir avec tous les systèmes de contrôle pour pouvoir éviter que l'environnement soit contaminé.
Oui, justement, professeur Lazare, vous avez été sur deux sites bien différents, mine de fer et mine de mica. Est-ce que vous voyez des différences entre ces deux milieux-là? Comment?
Je voudrais peut-être juste préciser par rapport à ce que mon collègue a dit. Oui. Donc moi, mes deux sites, en fait, sont pas acides, sont pas des drainages acides, sont des environnements, en fait, avec un pH très neutre, ce qui arrive aussi, ce qui est moins étudié, parce que je pense que Du coup, ça, peut-être que ça éveille moins l'intérêt, mais oui, c'est une des questions qu'on s'est posées, et en tout cas les populations microbiennes qu'on trouve de façon générale dans les demi-mines, quelles que soient les profondeurs ou les saisons, vont être différentes. Donc oui, la composition de la roche a clairement eu un impact sur les populations qui ont réussi à recoloniser ces milieux, et sûrement aussi d'ailleurs la composition de l'eau souterraine qui a inondé petit à petit les tunnels.
Oui, et peut-être qu'elles étaient différentes au début aussi, non ?
Oui, certainement. Puis moi, alors évidemment, on ne peut que s'imaginer le scénario, mais je pense que ce qui constitue ce qu'on trouve maintenant dans ces eaux-là ne vient pas, doit venir en majorité de l'ancienne eau souterraine, mais il y a des micro-organismes qui vivent à l'intérieur des roches, à la surface des roches, dans les sols. Donc je pense que tout ça, en fait, a contribué à composer la communauté qu'on observe maintenant, qui était sûrement très différente dans les deux mines au départ. Donc évidemment, si au départ les compositions, les communautés étaient différentes, c'était certain que ça allait mener à des communautés qui allaient être différentes, en plus des pressions de sélection.
Oui, oui. Professeur Buchia, vous avez évoqué la restauration. On va en parler maintenant. C'est important de bien restaurer les sites après l'exploitation. Mais comment on fait ça? Est-ce que c'est d'abord une question de collecte de données, d'informations, de bien connaître justement le site avant, comment c'était, pour pouvoir proposer des pistes de solutions? J'imagine que oui.
Oui, la première étape, c'est évidemment une bonne caractérisation des problématiques, parce que on va orienter la méthode de restauration en fonction du problème à régler. Donc, si on n'a pas vraiment de problème de contamination des eaux, on se retrouve plus dans un problème de remise en état, ben à ce moment-là, on va s'assurer de remettre de la végétation, de retourner le site, ce que le gouvernement appelle à un état satisfaisant. Ça veut dire, c'est important de comprendre que selon la loi, la compagnie minière n'a pas l'obligation de retourner le site à l'état initial, mais il doit le retourner à un état satisfaisant, donc à un état qui est considéré comme étant pas équivalent, mais satisfaisant pour d'un point de vue de l'environnement, et il définit là ce que lui considère comme étant un état satisfaisant. Il faut pas qu'il y ait de danger pour le public, il faut pas qu'il y ait de génération de contaminants dans l'environnement, ça doit pas nécessiter un entretien continu, ça doit s'intégrer à l'environnement qui est présent sur le site. Donc il y a des critères là qui ont été définis, mais c'est l'objectif, c'est de retourner ça à un état satisfaisant. Si le résidu est très problématique, donc il contient des éléments qui risquent de générer de la pollution, ben là, on va devoir trouver des méthodes de contrôle. C'est-à-dire, comment on va s'y prendre pour empêcher que cette réaction-là, qui mène à la contamination, comment on peut faire pour l'empêcher de se produire? Là, on va comme utiliser des techniques de pour contenir le problème. Ça veut dire là, construire des systèmes de recouvrement avec des sols, des matériaux, différentes couches, différentes
propriétés. On va parler des techniques de restauration, mais ce que je voudrais bien comprendre, c'est quoi la priorité? Comment le gouvernement priorise les sites à restaurer?
Ben pour ces sites à lui, il en fait vraiment une caractérisation, puis ensuite il établit une liste basée sur l'ampleur de la problématique. Donc ils ont commencé par les sites les plus problématiques. Là, nous en Abitibi, on avait deux sites là, vraiment très problématiques, qui étaient le site Manitou et le site Adermac. Donc les efforts de restauration ont beaucoup été sur ces sites-là dans les dernières années. Il y a le site.
C'était des mines de quoi? Qu'est-ce qu'il y avait?
C'était des mines de. Dans le cas d'Aldermac, c'est plusieurs choses. Adermac, c'est une vieille mine qui opérait durant la guerre, et même ils l'ont exploité pour la pyrite et pour avoir le fer. Ensuite, c'est devenu une mine où il y avait des éléments métalliques, là, des métaux de base, des métaux, je crois que c'était zinc, nickel, cuivre là, parmi ces métaux-là, qui étaient considérés comme étant ayant des valeurs économiques. Donc, ils ont exploité ça. Et par la suite, ben, la mine a fermé dans les années 60. À Manitou, c'était une mine d'or principalement, donc qui a été opérée à différentes phases et ça s'est terminé dans les années autour des années 90, là, officiellement, où je pense à partir des années 2000 quelques, le gouvernement a considéré que c'était sous sa responsabilité et il a entamé les travaux de restauration. Mais c'est comme ça qu'il fait. Il y a une caractérisation, il identifie vraiment les sites qui sont les plus problématiques et il investit d'abord ses fonds sur ces sites-là, et avec le temps, ben, on va s'en aller tranquillement vers les sites qui sont moins problématiques, mais qui nécessitent quand même des travaux de restauration.
Oui, professeur Lazare, la restauration, c'est un encore un domaine d'exploration en recherche. Quels sont les défis d'un aspect écologique? Vous avez des nouveaux processus, des nouvelles bactéries que vous découvrez?
Oui, alors, juste là encore, peut-être pour remettre un tout petit peu les choses en contexte de mon point de vue. Mm-hmm. C'est sûr qu'au départ, j'étais plus partie en recherche fondamentale. Ce qui m'intéressait, c'était de caractériser les organismes qui avaient réussi à recoloniser ces milieux.
Oui.
Et petit à petit, on a découvert quand même beaucoup d'organismes, d'ailleurs, qui étaient inconnus dans les bases de données mondiales. Donc, on s'est rendu compte que ces conditions uniques avaient sûrement conduit à l'évolution, puis à l'adaptation et à l'apparition de micro-organismes qu'on connaît même pas. Mmh. Et du coup, on a fait des petits tests au laboratoire. On les a cultivés, puis on les a exposés à des concentrations croissantes de différents métaux. Et là encore, à notre surprise, même aux concentrations les plus élevées, ces micro-organismes arrivaient encore à pousser et à très bien pousser.
Uh-huh.
Et donc là, la question que je me suis posée, c'était mais de quelle façon? Comment arrivent-ils en fait à se défendre contre la présence de ces métaux?
Uh-huh.
Une des stratégies, ça peut paraître simple, c'est juste d'accumuler à l'intérieur de leurs cellules ce métal. Donc il est plus présent à l'extérieur, c'est moins toxique. Mais après, évidemment, ça pose d'autres problèmes. Mais vraiment, il y a une énorme, ça s'appelle la bioaccumulation. Il y a aussi d'autres processus de transformation en fait du métal. Donc il ne disparaît pas, mais il peut en fait être transformé en une forme qui va être moins toxique. Mais tout ça, là encore, c'est en cours d'étude. On commence un petit peu à se rendre compte qu'il y a un gros potentiel, il y a un gros réservoir de micro-organismes qui pourraient faire des choses extrêmement intéressantes. Et le projet que j'ai en cours en ce moment, on a un volet qui est vraiment appliqué. Et c'est vraiment ce qu'on voudrait faire, c'est arriver à isoler des souches qui auraient vraiment un gros potentiel en bioremédiation. Et voir si ce serait aussi simple après que de les mettre dans un milieu contaminé, de les laisser faire leur travail. Mais bien sûr, comme je l'ai dit en microbiologie, les choses ne sont jamais aussi simples.
Oui.
Donc c'est pareil, on a plusieurs autres choses qu'on est en train d'examiner.
Entendu. Professeur Bussia, je vais retourner avec vous. Donc rappelez-nous quelles sont les techniques classiques et d'ingénierie de décontamination et de réhabilitation.
Bon, il existe, dans le fond, là, l'objectif de la restauration, quand on veut contrôler, là je parle surtout de la restauration des aires d'entreposage de rejet, là, ceux qui génèrent la contamination des eaux, mais souvent on sait que le problème est généré par la présence des sulfures avec l'eau et l'oxygène, donc on va essayer de jouer sur les réactifs, donc on va essayer d'enlever l'oxygène du processus, ou on va essayer d'enlever l'eau, ou on va essayer d'enlever les deux. Donc ça implique des systèmes de recouvrement, donc des couches de sol avec différentes propriétés, qu'on va placer et dont l'objectif va être de couper l'infiltration d'eau ou l'infiltration d'oxygène, la migration d'oxygène. Et on va construire ça sur l'ensemble des aires d'entreposage. Et ensuite, on va tenter de replacer de la végétation sur les couches supérieures pour pouvoir retourner le site. Mais évidemment, cette végétation-là, on voudra pas que... Il faut s'assurer que elle n'a pas d'interaction avec la contamination qui est au bas. Donc ça fait partie des objectifs. Mais nous, c'est vraiment essayer de couper la réaction à la source, mais ça reste que le matériel, le potentiel, il demeure. Donc c'est comme comme on fait un peu pour les déchets domestiques, on place des systèmes de recouvrement pour les sites d'enfouissement, pour réussir à contrôler la contamination. C'est un peu la même approche, mais on joue sur les réactifs. Et puis ça va beaucoup dépendre de la localisation géographique. Donc si vous êtes au nord, dans le pergélisol, ben il existe des façons de contrôler la réaction par le contrôle de la température. Donc, si on est dans le pergélisol, il y aura très peu de réactions chimiques, et à ce moment-là, on va contrôler la génération d'acide. Si on est dans des contextes humides comme le Québec, ben on va souvent plus jouer sur l'oxygène, aussi l'eau, parfois. Et si vous êtes, dans un pays aride, semi-aride, ben souvent, là, c'est vraiment l'eau qu'on va essayer de contrôler parce qu'il y en a moins, c'est plus facile. Mm-hmm. Et puis là, on va utiliser des techniques pour contrôler l'infiltration d'eau. Donc, c'est vraiment la façon de faire, c'est de contrôler la réaction qui mène au problème, et on va éviter la contamination. Évidemment, dans les sites abandonnés, le problème, c'est que souvent, il y a eu, comme il était mentionné tantôt, il y a eu une contamination antérieure et les eaux sont contaminées et ces eaux-là, ils vont devoir sortir un jour ou l'autre. Mm-hmm. Donc, on va arrêter la nouvelle contamination à partir du temps aujourd'hui, mais l'eau qui est contaminée, elle, va sortir pendant un certain nombre d'années. Donc, à ce moment-là, ce qu'on essaie de développer, c'est des techniques de traitement des eaux, traitement passif des effluents qui vont, pendant un certain temps, contrôler cette contamination-là, éviter que la contamination se retrouve dans l'environnement, jusqu'à temps qu'il y ait eu la purge de cette eau qui était contaminée par l'historique. Donc, c'est plus complexe quand on a des sites abandonnés parce qu'on doit gérer la contamination antérieure.
Oui, professeur Lazare, je vais terminer avec vous donc en mode solution. Comment les micro-organismes peuvent aider justement à compléter peut-être ces techniques de restauration biologique avec les micro-organismes?
Je sais pas, peut-être que mon collègue pourra compléter, mais quand moi j'y avais réfléchi, je m'étais dit que peut-être utiliser les micro-organismes justement basés sur les stratégies qu'ils auraient pu mettre en place, ce sera un moyen autre qu'un moyen chimique. Donc peut-être que ça n'ajouterait pas plus de contamination, mais je ne sais pas si les méthodes qui sont utilisées en ce moment, en fait...
Tantôt, je parlais du traitement passif.
Pour l'environnement.
Moi, je parlais du traitement passif tantôt. Il y a des méthodes qui utilisent des bactéries sulfato-réductrices qui ont la capacité d'utiliser les métaux, puis ensuite ils vont les précipiter sous forme de sulfure et ils vont générer de l'alcalinité en même temps, donc ça permet de remonter le pH, de stabiliser les métaux. Donc oui, il y a beaucoup de potentiel, je suis tout à fait d'accord, hein. Moi je pense qu'on effleure seulement que c'est la pointe de l'iceberg là, ce que l'on connaît du potentiel de
restauration,
biologie, d'utiliser toutes ces technologies là. Puis moi je suis conscient là que bon, je suis un peu du côté appliqué de la R&D, mais les travaux de recherche de ma collègue qui sont plus fondamentales sur la compréhension de ce qui se passe au niveau microbiologique, c'est tout à fait important. Puis c'est quand on va combiner tout ça, ben à un moment donné, on va progresser, puis nos techniques vont être plus efficace, on va peut-être moins travailler à l'aveugle, on va travailler davantage avec des notions que l'on contrôle, que l'on connaît. Donc moi, je suis à 100% pour qu'on poursuive ces travaux-là de compréhension plus fondamentale, l'impact de la microbiologie, par exemple, sur tout ce qu'on observe sur des sites abandonnés.
Oui, c'est parfait. Donc on va se conclure avec ça. C'est une bonne piste optimiste sur la restauration. Donc merci beaucoup. On était en compagnie de Bruno Bussière, professeur à l'Université de Québec en Abitibi-Témiscamingue, directeur scientifique du programme de recherche de l'Institut de recherche en mines et environnement de l'UQAD Polytechnique, et de Cassandre Lazare, professeur au département des sciences biologiques de l'UQAM et membre régulière du groupe de recherche interuniversitaire de limnologie. Merci.
Merci beaucoup.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vote pour la science est une production de Science Presse avec Radio-VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche cette semaine Fanny Roubarcher, à la réalisation et le micro, comme toujours, Isabelle Burguin. Si vous avez aimé l'émission, partagez-la. Vous pouvez suivre aussi la page Je vote pour la science sur le site de Science Presse. Je vous souhaite de passer une très très belle semaine à notre antenne.
Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique.